Dis-moi qui tu cites, je te dirai qui tu es. Une émission de l'Alliance israélite universelle présentée par Ilana Sicurel. Samuel Blumenfeld, bonjour.
Bonjour.
C'est un plaisir de vous accueillir dans Dis-moi qui tu cites. Vous êtes critique de cinéma et par ailleurs auteur, notamment d'une biographie sur Michel Wacinski, qui est le réalisateur du D-Book, le plus grand film probablement de la courte histoire du cinéma yiddish, et aussi d'un livre, d'un roman, on va dire, peut-être inspiré par votre autobiographie, Au nom de la loi, paru en 2013. Et puis, je rappellerai aussi que vous êtes un compagnon de route de l'Alliance israélite universelle, et notamment à travers la médiathèque, où vous intervenez notamment pour un cycle concernant le cinéma. Cinéma et judaïsme
On va dire oui au sens large. Enfin, j'ai fait cette année en fait un cycle qui était sur Charlie Chaplin et Orson Welles, cinéaste juif, non juif.
Alors c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Disons un mot, vous avez une passion pour le cinéma américain dont vous êtes un grand spécialiste, disons-le. Et alors un mot peut-être justement de cette problématique originale des cinéastes non juifs qui ont finalement quelque chose de juif.
Oui,
Charlie Chaplin, Orson Welles.
Absolument, de la même façon que bon, je pense qu'un film ne se qualifierait pas comme juif. Enfin bon, un film juif, ça ne veut pas dire grand-chose. Un film, d'abord, il est bon ou il est mauvais. On va dire qu'un film peut avoir certains aspects juifs dans ses différentes identités et facettes. Il peut avoir un aspect juif. Or, lorsqu'un film est signé par un cinéaste juif, ça ne signifie pas nécessairement qu'il le soit. Et j'irai même plus loin, c'est pas parce qu'il n'y a que des films dans un film que le film est nécessairement juif. Si on prend, sans vouloir polémiquer, sans volonté polémique, si on prend Le Grand Pardon d'Alexandre Arcadie, vous avez que des personnages juifs dedans, puisque je rappelle aux auditeurs qui connaîtraient pas le film, c'est un film qui met en scène la mafia juive originaire d'Algérie, enfin algérienne, hein, je crois, plus qu'au d'Afrique du Nord, c'est clairement Algérie. Et si vous voulez, vous avez une image qui est tellement caricaturale du juif que bon, c'est pas, mis à part le fait qu'il y ait des juifs à l'écran, ça va pas nous emmener très loin. Inversement, j'ai toujours pensé, et les gens qui ont fait le film pensaient la même chose, qu'un film comme Le Lauréat, le fameux film Le Lauréat de Mike Nichols avec Dustin Hoffman, qui se passe dans la banlieue californienne, où véritablement c'est comme ça, au premier abord, très 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 goy. En fait, le personnage incarné par Dustin Hoffman est un personnage juif. L'idée de l'étudiant qui termine ses études, doit entrer dans la vie professionnelle, est très 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 mal à l'aise avec les femmes, totalement vampirisé par ses parents. C'est un personnage qui, dans le contexte de la fin des années 60, était immédiatement identifié comme juif et joué comme tel, enfin, et véritablement écrit comme tel, par Dustin Hoffman, pas le scénariste du film, mais par son metteur en scène. Ce qui nous ramène donc à Orson Welles et Charlie Chaplin, c'est que je pense véritablement que ces deux cinéastes, qui ne sont pas juifs, ont des aspects juifs dans leur cinéma. Ça ne veut pas dire qu'il faille annexer leur cinéma. Ça veut dire simplement que c'est une manière supplémentaire de regarder leur cinéma. Dans le cas de Chaplin, c'est assez évident parce qu'il y a longtemps eu cette confusion entretenue par Chaplin lui-même qu'il était juif. En fait, la question de l'identité, elle importe peu. Celle qui importe davantage, c'est ce que produisent et montrent les films. Chez Chaplin, en fait, Chaplin incarne dès le début de sa carrière et jusqu'à la fin, en fait, l'image de l'immigrant. Et l'image de l'immigrant dans la première moitié du XXe siècle, l'immigrant qui part d'Europe pour aller aux États-Unis, c'est une image du juif. Sur Welles, un autre aspect, Orson Welles, c'est quelqu'un qui, dans la deuxième partie de sa carrière, lorsqu'il s'exile en Europe, se reconfigure complètement et se reconfigure en fait en juif cosmopolite originaire d'Europe centrale. C'est une des métamorphoses les plus notables de Welles. Un dernier aspect pour terminer, quand on prend le film le plus célèbre de Welles qui est Citizen Kane, 1941, c'est encore une époque, un moment dans le cinéma américain où il n'y a pas de juifs à l'écran, presque jamais. On va dire depuis la fin des années 20 jusqu'à l'entrée en guerre des États-Unis, il n'y a pratiquement pas un seul personnage juif dans le cinéma américain. Or, dans Citizen Kane, vous voyez, vous avez un personnage juif qui est en plus extrêmement positif. C'est véritablement un coup de tonnerre de voir cela. Et c'est une chose que se permet Wells parce que justement il avait les pleins pouvoirs à ce moment-là. Il pouvait vraiment faire le film qu'il voulait avec les personnages qu'il souhaitait. Et c'est ma foi tout à fait exceptionnel. Voilà.
Ce qui nous ramène, si on élargit un petit peu l'horizon, effectivement, à cette interrogation que vous avez toujours eue sur le lien entre judaïsme et, on va dire, cinéma américain de l'entre-deux-guerres ou du début de cette intrication des problématiques juives. Le cinéma serait-il ce qu'il est s'il n'y avait pas eu... Alors, il y a la présence des juifs, mais ces problématiques juives aussi qui se promènent
Écoutez, c'est une longue histoire. On va essayer de la faire très courte pour ne pas ennuyer vos auditeurs. Mais en tous les cas, les studios de cinéma américains, les grands studios, Paramount, Universal, Columbia, etc., MGM, 20th Century Fox, ont été fondés par des juifs, tous par des juifs d'Europe centrale, qui, on va dire, quand on regarde leurs origines, en fait, habitaient dans un périmètre, étaient originaires d'un périmètre d'Europe centrale qui était de 150 km². Vous voyez, très, très, très peu. Et donc, ils sont immigrés, ils se sont retrouvés dans un périmètre qui faisait 30 km² en Californie. Vous ne pouvez pas comprendre l'histoire d'Hollywood sans comprendre l'histoire de ceux qui ont fondé ces studios et imprimer leur marque sur ce cinéma. Car on va dire jusqu'à la fin des années 1940, le cinéma américain est un cinéma de réalisateur, un cinéma de star, mais aussi un cinéma de producteur. Et par bien des aspects, en fait, le cinéma américain, beaucoup de films américains portent l'histoire de ces producteurs. Leur histoire, elle est très simple. C'est celle d'immigrés d'Europe centrale, tous pauvres, arrivés aux États-Unis. Et qui ne rêve que d'une chose, c'est de devenir américain, mais pas n'importe quel américain, devenir plus américain que n'importe quel américain, ce qui devient presque une problématique juive, c'est-à-dire qu'il y a une telle détermination de sublimer une identité que ça touche à quelque chose qui est profondément, enfin, on va dire, identitaire et juif, du moins dans la problématique du XXe siècle. Donc véritablement, on ne peut pas comprendre le cinéma américain, on va dire, dans son âge d'or, sans regarder l'identité de ceux qui l'ont inventé, en fait.
Samuel Blumenfeld, on va à présent aborder les citations que vous nous proposez. La première, je vous laisse la lire pour les auditeurs.
La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Albert Einstein.
Alors pourquoi cette citation ?
Alors, bon, d'abord, Albert Einstein est quelqu'un, c'est quelqu'un qui me fascine. Et puis, en fait, c'est tout simplement quelqu'un qui me fascine. Alors, je suis loin d'être le seul, mais c'est quelqu'un qui me fascine parce qu'il n'y a pas moins scientifique que moi. Je ne comprends rien, strictement rien à la science, strictement rien aux chiffres. Et c'est véritablement de l'ordre du handicap. Handicap qui a débuté très tôt, qui n'a jamais pu être comblé. Et Albert Einstein, on va dire, est le seul scientifique dont il me soit arrivé de comprendre, ou du moins d'avoir l'impression de comprendre, certaines de ses paroles. Alors bien évidemment, cette citation n'est pas est très 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 éloignée du Einstein physicien. Mais en tous les cas, je me sens en symbiose complète avec son bon sens, qui est assez génial. Alors bien évidemment, quand Einstein écrit cela, je pense qu'il y a un sens scientifique. C'est que je pense qu'il voit ça par rapport à des expérimentations physiques. Effectivement, si ça marche pas une fois, il y a pas de raison que ça marche une autre fois. Néanmoins, c'est une phrase qui m'obsède, pas depuis toujours en fait, mais on va dire depuis une bonne année, parce qu'elle me semble en fait assez bien refléter ce qu'on vit en fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a entre autres choses, une chose qui me frappe assez, c'est toujours dans le mirage permanent de la gauche extrême aujourd'hui, avec le rêve continuel de nous expliquer en fait que le communisme aujourd'hui pourrait marcher. et serait la réponse appropriée au libéralisme. Ça me frappe beaucoup parce que s'il y a véritablement une grande catastrophe au XXe siècle avec le nazisme, c'est bien le communisme. Et si on a véritablement vraiment des occurrents de cet échec communiste partout, sur presque tous les continents, c'est bien le communisme. Il n'y a aucun exemple de société communiste qui réussit. Il y a tellement de contre-exemples que c'en est absolument navrant. Le seul cas où ça fonctionne, c'est le kibboutz. Mais en l'occurrence, le kibboutz est une société communiste où on peut entrer librement et partir librement.
Et qui a beaucoup évolué. Et il faut bien le dire.
Par ailleurs,
on est très loin du modèle initial aujourd'hui.
Absolument, très très loin du modèle initial.
On a intégré l'idée même de propriété privée et de, en tout cas, voilà, d'une nécessité d'avoir un champ de liberté et d'autonomie.
Absolument, mais de toute façon, ce n'était pas au niveau d'un État, c'était au niveau d'une micro-société. Mais au niveau d'un État, c'est absolument consternant. Et ce qui me fascine, c'est qu'on m'explique qu'aujourd'hui, ça pourrait marcher, que ça vaudrait la peine d'essayer. Or non, ça ne vaut pas la peine d'essayer. Je veux dire, il suffit de regarder la Corée du Nord, Cuba. Enfin, je veux dire, on va pas. Je pense en plus, on est sur une chaîne de radio où nos auditeurs sont déjà convaincus. Mais ce qui me fascine, c'est que nous ne retenions pas, du moins que cette gauche-là, ne retienne pas les leçons de l'histoire. Et c'est à la fois, c'est un aspect comique et en même temps terriblement angoissant.
Et on peut aussi la lire à l'envers en disant on veut un résultat différent, mais on n'a pas l'audace de tenter quelque chose de nouveau.
C'est ça. Et puis c'est aussi, enfin c'est en fait ce qu'Einstein met en valeur, en fait, c'est en même temps un plaidoyer pour une intelligence élémentaire. Cette souplesse de base, en fait, qui consiste à reconnaître que l'on a fait une erreur. Or, nous faisons des erreurs en permanence. C'est notre quotidien. Et ce qui, en fait, définit notre intelligence, ce n'est pas d'accumuler les erreurs, parce qu'en fait, c'est ce que nous faisons en permanence. C'est d'être justement capable de reconnaître ces erreurs, d'avancer et, une fois enfin, arriver à toucher à quelque chose qui fonctionne. Quel seul moyen de réussir ? C'est de toujours essayer. Or, ce que décrit Einstein, c'est le processus inverse, qui est donc un processus mortifère.
Deuxième citation que vous nous proposez, Samuel Blumenfeld, Churchill, « Plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur. »
Ça, alors, en revanche, bon, autant avec Einstein, je me sens à la fois proche et éloigné, autant avec Churchill est pour moi... Pour moi d'ailleurs, hein, mais du moins à mes yeux, le grand homme du XXe siècle. C'est-à-dire que si nous sommes là, c'est sans doute grâce à Churchill. C'est l'homme qui, pendant près de 3 ans, a incarné le monde libre à lui tout seul. On va dire, de la défaite française à l'entrée en guerre des États-Unis, c'est l'homme qui porte sur ses seules épaules. J'ai presque ses seules épaules parce qu'il était à contre-courant de la société britannique jusqu'en 1939. C'est lui qui porte sur ses seules épaules l'idée anti-nazie. Quelqu'un qui ne s'est jamais compromis, qui dès le départ comprend de manière virulente, violente, argumentée, réfléchie, lumineuse, qu'il n'y a pas de compromission possible avec ce régime et que si on n'est pas prêt à se battre, eh bien, nous irons à de grandes catastrophes. Churchill ne s'est jamais trompé. Or, le fondement de Churchill est très simple. Enfin, ce que Churchill est très simple, c'est que pour percevoir la menace totalitaire, il suffit simplement de lire et relire son histoire. Il faut simplement être ancré, avoir un pied dans le passé pour justement pouvoir s'inventer un avenir. C'est une chose qui me semble que je ne répéterai jamais assez et autour de moi et à mes enfants, qui me semble d'ailleurs être profondément la problématique du peuple juif. Je veux dire, dans notre pratique religieuse ou moins religieuse, eh bien, lire la Torah, c'est pas simplement un commandement religieux, c'est bien au-delà de ça, c'est simplement s'immerger en permanence dans notre histoire et regarder notre histoire non pas de manière linéaire, mais de manière circulaire. Et en la regardant de manière circulaire, on se donne la chance de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Or, c'est ce que Churchill comprend parfaitement, c'est que justement, fort de cette intuition très forte que l'histoire est circulaire, et que et qu'étant circulaire, il faut justement très bien la connaître, nous pouvons nous offrir un avenir en évitant le danger, en évitant le danger totalitaire et en localisant, en l'identifiant comme tel.
Alors il y a ce recul que permet l'histoire, mais il y a en même temps toujours la nouveauté de la situation. Et je pense que là, on ne trouvera pas dans la Torah l'idée de quelque chose qui se reproduit forcément.
Enfin,
il y a quand même l'idée du renouvellement, de la nécessité et du danger aussi, de lire avec les lunettes d'hier ce qui se passe aujourd'hui. Là, on est au cœur de toutes les questions qu'on se pose.
Non, mais tout à fait. Mais il s'agit simplement de penser les choses en termes d'équivalence. Et penser les choses en termes d'équivalence, ce n'est pas se dire qu'on va lire là désormais les choses dans une boule de cristal ou dans un marc de café. C'est simplement, par équivalence, pouvoir se permettre de poser des questions, d'interroger ce qui est notre présent et qui donc va définir notre avenir. C'est tout simplement cela. Mais tout simplement ça, c'est en fait énorme.
C'est les dynamiques qui sont et les problématiques qui sont en mouvement.
Absolument, absolument. Ça nous amène, regardez l'histoire de manière circulaire, nous amène à la questionner en permanence. Au lieu de la recevoir et de se dire, et de se dire presque par superstition, que le pire n'est pas possible. Non, le pire, il est possible, mais en même temps, il est évitable, à condition de faire fonctionner sa tête.
Enfin, circulaire, il y a quand même l'idée de répétition. Pardonnez-moi d'insister.
Mais circulaire, alors il y a plein de choses. Hein. Je veux dire, il y a des choses qui se répètent. C'est pour ça que je parle d'équivalence. Alors dans l'équivalence, vous avez des choses qui sont plus ou moins ressemblantes. Vous avez aussi un phénomène de répétition, ça c'est également. Mais bon, dans le terme de circulaire, en fait, vous avez plein de variantes. Vous pouvez mettre plein de choses à l'intérieur.
Troisième citation, Raymond Aron.
L'ignorance et la bêtise sont des facteurs considérables de l'histoire. Ce qui semble, comme ça, on se dit, mais bon, ma foi, bon, Raymond Aron, en fait, quand même qu'on devrait, qu'on n'y pas assez quand même. Je veux dire qu'on ferait bien de relire aujourd'hui parce que voilà quelqu'un qui s'est peu trompé. Voire presque jamais trompé dans les débats Raymond Aron, Jean-Paul Sartre qui ont rythmé une partie de la seconde moitié du XXe siècle. Raymond Aron a toujours eu raison contre Jean-Paul Sartre. Alors comme ça, j'ai pris volontairement une citation d'Aron qui apparaît simplette, qui pourrait presque être une réflexion comme ça qu'on sort dans un bar devant un ballon de blanc. Or non, c'est beaucoup plus profond que profond que ça. Je pense que l'ignorance est une chose qui caractérise bien beaucoup de nos hommes politiques. Alors, attention, quand je dis ça, il ne s'agit pas de tomber dans un discours démagogique qui est précisément celui d'extrême droite. Mais je pense...
Une forme de dévalorisation
Il ne s'agit pas de tomber dans quelque chose qui soit dans le tous pourri, qui n'est pas intéressant. Mais je pense justement que ce qui caractérise une partie de notre classe politique, à droite comme à gauche, pas seulement en France, c'est quand même une absence, un rapport au savoir et à la connaissance qui est de plus en plus relâché. Quand en fait, cette classe-là devra avoir le rapport le plus étroit au savoir. Elle devrait être érudite. Alors, être érudit ne vous garantit pas une compétence, mais ça aide. Et ce qu'on constate quand même, c'est une ignorance de plus en plus prononcée chez nos élites. J'ai pas de solution, hein, j'ai pas de programme en main. Mais ce qui me frappe, c'est que du coup, cette ignorance, peut-être à la source quand même de grands malheurs. Cela n'aide pas. Me semble-t-il.
C'est la rapidité du média, qu'est-ce qui, enfin, sans vouloir incriminer forcément un facteur, mais on a l'impression que même ceux d'entre eux qui savent et qui pourraient savoir doivent le cacher. Parce que certains d'entre eux ont vraiment des formations humanistes, mais il faut surtout le faire oublier aux potentiels électeurs.
Il y a effectivement ce qui est devenu les dérives de notre démocratie, le fait que l'image prend le pas sur les discours et sur les programmes, donc ce qui amène amène les gens à voter, qui est rarement, en fait, c'est rarement pour de rarement pour de bonnes raisons. Je pense qu'au-delà de ça, il y a aussi un phénomène, il y a un fait de civilisation qui nous amène à abandonner les humanités. Et cet abandon des humanités peut être le prélude quand même à de grandes horreurs, parce qu'après tout, bah, les humanités portent bien leur nom, et des hommes politiques qui ne sont pas passés par l'apprentissage de l'histoire, celui de la philosophie, celui de la littérature, c'est pas seulement pour briller en société, c'est pas simplement pour étaler sa culture générale, mais ce sont des outils pour comprendre le monde. Ce sont aussi également des outils pour dire le monde, parce que tout simplement passer par ces humanités, c'est acquérir un vocabulaire qui vous permet de le comprendre, qui permet également de se prémunir contre certains dangers, et voir des hommes politiques qui ne passent plus par ces cases-là, en fait, c'est assez triste et c'est effectivement assez synonyme d'ignorance.
Quatrième citation, Samuel Blumenfeld, Orson Welles, oui. On la relit.
Oui, alors je pense qu'un artiste doit toujours être en décalage avec son temps. C'est très facile à comprendre. Bon, Welles, bon, comme on en parlait tout à l'heure, bon, j'ai fait un cours sur Welles à l'Alliance. Bon, c'est d'une banalité crasse de dire que Welles est un des plus grands cinéastes du XXe siècle. J'irais simplement, je suis assez frappé quand même qu'on ne voit pas assez ces films, ou du moins que les jeunes générations quand même ne les voient pas assez. Donc véritablement, je pense que c'est dommage de passer sur la planète Terre sans avoir vu au moins Citizen Kane, La Splendeur des Amberson, ou l'adaptation du procès de Kafka, qui est un film absolument génial. Et d'ailleurs, par ailleurs, un des grands films jamais réalisés sur la Shoah. Ce que dit Welles a été dit en fait par n'importe quel autre grand artiste, c'est tout simplement un grand artiste n'est jamais à la mode. Il raconte son époque, il la comprend de manière fulgurante, on peut même dire que par certains aspects il la prophétise, mais en même temps il est rarement en symbiose avec le public. Ce qui est exactement l'histoire de Welles, c'est que bon, Welles n'a pratiquement jamais connu de succès public. Mais tout simplement, une grande œuvre est à la fois pertinente, mais jamais à la mode. Elle n'est jamais de son temps, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, elle arrive, si elle est géniale, elle arrive toujours en avance. Donc c'est un malheur pour l'artiste, parce que les chances d'en vivre sont quand même réduites. C'est un grand bonheur pour les spectateurs ou lecteurs ou auditeurs que nous sommes, parce que lorsque nous la recevons, elle nous parle comme si elle s'adressait à nous presque exclusivement.
Et c'est compliqué pour le cinéma, parce que c'est quand même un art en même temps qui doit être reçu, parce qu'économiquement, sinon il ne peut pas se produire.
Absolument, c'est une tragédie qui a parfaitement incarné Welles, puisque c'est quelqu'un qui, après Citizen Kane, a vu le montage de tous ses films modifiés, n'a absolument pas pu mener la carrière qu'il aurait souhaité, et le cinéma étant une industrie coûtant cher, eh bien c'est particulièrement difficile pour un auteur.
Dernière citation, Golda Meir, et il nous reste, je dirais, une poignée de minutes pour la commenter. Le pessimisme est un luxe qu'un juif ne peut pas se permettre.
Oui. Alors qu'on est
sens de la formule, Golda Meir.
Oui, sens de la formule, absolument. Toujours sens de la formule. Pas que quand même. Quand même quelqu'un qui a su quand même occuper un rôle significatif dans son pays. Ça semblerait presque une boutade, où on se dirait même, est-ce qu'elle a vraiment pu dire ça, ou est-ce qu'elle n'aurait pas pris un mot par un autre? Parce que quand même, pour ce qu'est le pessimisme, on est assez fort quand même. Et pour des raisons quand même évidentes, hein, c'est qu'on a quand même, bon, que ce soit d'ailleurs en Europe centrale ou en Afrique du Nord, vécu des choses ou du moins nos parents, grands-parents, vécu des choses assez désagréables. Mais et a fortiori en Israël, où il y a une guerre à peu près tous les 3, 4, 5 ans. En fait, ce qu'énonce Golda Meir est le bon sens même. Elle saisit de manière instinctive en fait ce qu'est le destin du peuple juif. C'est qu'en fait on avance sur un chemin de crête en permanence. Et donc autour de nous effectivement ça s'effondre, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il n'y a pas d'autre choix que d'avancer sur ce chemin de crête. Et en fait c'est exactement ce qu'a été le projet sioniste qui par bien des aspects est une éclatante réussite. Pas par tous ses aspects, mais par certains aspects une éclatante réussite. C'est tout seulement cette idée qu'on est sur un chemin qui est extrêmement étroit, de plus en plus étroit, mais ma foi, il n'y a pas d'autre choix que d'avancer. Avancer ne demande qu'une seule chose, d'être optimiste. Le pessimisme, ce n'est pas possible, parce que ça signifierait reculer.
Est-ce que vous avez envie de transposer cette recommandation de Golda Meir aux Juifs de France aujourd'hui ?
Oh, je ne recommande rien. Enfin, vous savez, je suis journaliste.
Mais est-ce journaliste, que ça a un écho pour vous de dire le pessimisme est un luxe qu'on ne peut pas se permettre ?
Écoutez, très franchement, c'est pas véritablement là. Je vais pas avoir l'arrogance de donner des recommandations. Je pense que simplement, en fait, dans nos vies quotidiennes, quel que soit notre travail, quelle que soit notre occupation. Quel que soit notre destin, parce que c'est une grande force d'avoir un destin, quel soit-il, grand ou moins grand, t'as pas d'autre choix que d'avancer et pas d'autre choix que de carburer à l'optimisme.
Condamné à l'optimisme.
Ah oui.
On va finir comme ça. Merci Samuel Blumenfeld.
Merci beaucoup.
C'était « Dis-moi qui tu cites, je te dirai qui tu es », une émission de l'Alliance israélite universelle présentée par Ilana Sicurel.